quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Et c'est toi en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. Au menu du jour, un bilan de l'extinction de l'éclairage public sur le territoire de Grand Poitiers et votre rendez-vous avec le 7e art du mercredi où l'on évoquera le festival Télérama, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs films de 2024. Ce sera en seconde partie d'émission et comme chaque jour, vous retrouverez votre agenda et vos découvertes musicales version dub aujourd'hui, vous verrez. Et tout de suite, je vous propose d'accueillir notre invité du jour, c'est Aloïs Gabory qui est vice-président sobriété, transition énergétique, urbanisme à Grand Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler un petit peu de ce bilan que vous avez pu faire de l'éclairage public, rénovation et puis donc extinction de l'éclairage public. D'abord, peut-être revenir sur l'initiative, c'était 2021, c'était à l'occasion des couvre-feux, du confinement, tout ça.
Oui, effectivement, l'origine de cette volonté-là, c'est de se dire qu'au moment où on a eu les confinements, couvre-feux, etc., a priori, il y avait moins de personnes en extérieur et que c'était le moment d'expérimenter l'extinction de l'éclairage public, en sachant pertinemment que c'est une mesure qui peut faire peur, qui peut susciter beaucoup d'idées reçues, d'inquiétudes, tout à fait légitimes. Et donc, on est parti sur un mode d'expérimentation, expérimentation ciblée sur certains quartiers, notamment pour des considérations techniques. On pourra y revenir ensuite. Et donc, entre octobre et janvier, on a expérimenté, puis on a fait le choix de faire une analyse avec les habitants, en porte-à-porte, sur les marchés, via des questionnaires en ligne, à la fois sur leur perception de la mesure, aussi en faisant des balades avec eux. Par exemple, à Beaulieu, on a pu faire ça avec des habitants, et puis leur volonté, notamment des horaires d'extinction, des modalités d'atténuation, etc. Et c'est suite à cette enquête-là qu'on a pu généraliser le dispositif à l'échelle de la ville. Juste après, on a eu la crise énergétique avec la guerre en Ukraine, et l'ensemble du territoire de Grand Poitiers, et plus largement d'ailleurs, ont décidé d'éteindre encore plus fortement qu'à Poitiers, et donc ça a rendu une mesure qui inquiétait beaucoup plus acceptable.
Alors il y avait, on l'entend, des objectifs économiques avec l'augmentation des tarifs des énergies, mais aussi des objectifs écologiques. On a pris l'habitude d'avoir nos villes éclairées, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Non, c'est même assez récent finalement. Alors j'ai pas les dates clés en tête, mais c'est les années 70-80, on a pris l'habitude de beaucoup éclairer, et c'est beaucoup lié à la place de l'automobile aussi. Dans les villes et dans la manière d'urbaniser nos territoires, ça va ensemble, hein, la place majeure accordée à l'automobile a eu un corollaire sur l'éclairage public, et on s'y est habitué, et c'est vrai que c'est confortable. Je crois que toutes et tous autour de la table, c'est plus confortable de se balader le soir quand le trottoir est éclairé que quand on est obligé de prendre son téléphone ou une frontale ou une lampe torche ou autre, c'est certain. Et pour autant, on est là sur un sujet d'intérêt général. Le rôle de la collectivité, c'est de servir l'intérêt général, et certains se questionnent sur est-ce que éclairer toute une ville pour une poignée d'habitants, c'est de l'intérêt général ou c'est de l'intérêt particulier. Donc c'est toutes ces questions-là qui se sont posées. Mais vous avez raison, on n'a pas pris cette décision-là pour ces questions-là. Il y a un impact économique, c'est certain, mais surtout en termes de biodiversité, parce que l'impact de l'éclairage public sur la biodiversité, mais aussi sur la santé humaine, il est très important.
Donc il y a eu cette volonté d'éteindre une partie de la nuit, et il y a aussi une rénovation de tous les points lumineux. Ça, c'était important aussi pour les économies aussi.
Alors c'est presque la rénovation des infrastructures est presque plus importante en termes d'économie que l'extinction en elle-même. C'était un point majeur, et c'était aussi très nécessaire pour pouvoir mieux piloter et mettre en œuvre ce programme d'extinction. On est sur une ville où il y a beaucoup de vie, y compris la nuit, malgré ce que je disais à l'instant, et on est par exemple obligé, on a la nécessité de pouvoir rallumer quasiment en appuyant sur un bouton, enfin pas quasiment, en appuyant sur un bouton et très rapidement, en cas d'incendie, d'émeute, de toutes ces choses-là, pour des questions de sécurité publique en tout cas. Et jusqu'en 2020, on avait une infrastructure qui était vraiment très vétuste. Du coup, on avait un éclairage public qui était très peu fiable, avec souvent des pannes, des endroits où c'était allumé alors que ça n'aurait pas dû, et inversement. Et puis, une impossibilité de piloter. Donc, il y a eu 4,5 millions d'euros d'investis à l'échelle de la ville de Poitiers et par Grand Poitiers, sur à la fois le changement de ce qu'on appelle les gamelles, donc les ampoules, en gros, pour faire simple. Donc ça fait des grosses économies d'énergie. Et aussi sur les armoires. Les armoires, qu'est-ce que c'est? C'est une armoire qu'on a au bout de certaines rues et qui pilote fait un ensemble de rues en matière d'éclairage public. Et donc ces armoires, on les a équipées à la fois pour qu'elles soient plus fiables, mais aussi pour qu'elles puissent être pilotées à distance.
Ce qui représente combien de points lumineux à peu près ? C'est assez impressionnant.
C'est à peu près 18 000 points lumineux à l'échelle de la ville de Poitiers et le double pour Grand Poitiers.
Et il reste encore certains à changer, c'est pas encore fini ce chantier.
Sur la ville de Poitiers, c'est à 90% fait. On a encore quelques sujets sur des zones dont la voirie n'a pas été rétrocédée à la collectivité. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a par exemple un aménageur qui est propriétaire du terrain, qui a fait des rues parce qu'il y a eu un lotissement de fait, et la voirie n'a pas été revendue à la collectivité, et donc l'éclairage public est lié à la voirie en fait. Donc si on n'est pas propriétaire de la voirie, on peut pas intervenir là-dessus.
Et donc, les nouvelles technologies qui sont utilisées, ce sont les LED, c'est moins énergivore, en fait.
Alors, c'est principalement des LED, ça a un double impact. Effectivement, c'est moins énergivore, mais on peut aussi jouer sur la couleur. Parce que quand on parle de l'impact sur la biodiversité, il y a la couleur, plus c'est blanc, plus c'est nocif pour la biodiversité. Et donc, on a pu jouer sur la colorimétrie de cet éclairage et sur sa consommation.
Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les économies financières que ça a constitué, donc 2022-2023, et je crois que c'était plus important que ce que vous aviez imaginé au départ.
Oui, absolument. On avait tablé sur à peu près 50% d'économies d'énergie avec des horaires d'extinction plus longues que ce qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'on pourra en reparler aussi, mais on a fait des adaptations à la demande des habitants. Un peu des gros chiffres, mais en 2020, l'éclairage public consommait 5 878 000 kWh. D'électricité. Je vous rassure, je ne les connais pas par cœur, j'ai mon pense-bête sous les yeux.
Bon, presque 6 millions.
Presque 6 millions, absolument. En 2024, on en a consommé à peine plus de 2 millions. Donc ça représente 65% d'économie d'énergie en termes de kilowattheures consommées entre 2020 et maintenant. Donc à peu près 3,8 gigawattheures. Et en économie d'énergie, en économie financière, ça représente 1 million. Pour autant, l'impact, il est bien plus que ça, parce que ça représente 1 million en payé réel, mais ça veut dire que c'est une augmentation qu'on n'a pas subie. Et donc, ça c'est difficile à calculer, on ne sait pas combien on aurait payé si on n'avait pas éteint, mais c'est probablement beaucoup plus en termes d'euros économisés.
Et donc vous êtes à la fois élu à la ville de Poitiers et vice-président à Grand Poitiers. Comment la politique s'est mise en place dans les 40 communes ?
Alors, il se trouve que Poitiers était en retard par rapport aux autres communes, aux 39 autres communes de Grand Poitiers. De mémoire, je crois qu'en 2020, il y avait déjà 35 communes sur 40 qui éteignaient la nuit. Donc Poitiers était vraiment en retard par rapport à ça. Donc on a un peu rattrapé notre retard. Et puis je le disais, à l'occasion de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine, le syndicat Énergie Vienne, qui gère l'éclairage public d'une majorité de communes sur Grand Poitiers, a fait le choix, un peu arbitrairement, mais parce qu'il n'y avait pas le choix financièrement et en termes d'approvisionnement, d'éteindre l'éclairage public de 21h à 6h. Après, les communes pouvaient échanger avec le syndicat Énergie Vienne pour moduler les choses, mais la majorité ont éteint entre 21h et 6h. Et donc ça s'est calé un peu comme ça, avec des disparités en fonction des volontés politiques. Et le choix qui a été fait à Grand Poitiers, c'est toujours la même logique, d'investir sur le matériel. Donc il y a un peu plus de 20 millions d'euros qui ont été investis par Grand Poitiers sur l'éclairage public, avec un mécanisme, alors encore un nom un peu barbare, mais d'intracting. L'idée de l'intracting, c'est de dire que ce qu'on investit va être remboursé par les économies générées. Ça va venir alimenter un fonds d'économie d'énergie, en gros, et ce fonds, une fois qu'il sera réalimenté, va pouvoir financer d'autres travaux d'économie d'énergie. Et donc, au fur et à mesure, c'est les économies qui financent des investissements pour faire de plus grosses économies. Donc, c'est un mécanisme vraiment vertueux. Donc, 20 millions d'euros investis sur ce côté-là, sur l'ensemble des communes de Grand Poitiers, pour changer l'ensemble des mâts et des ampoules. Et puis, un gros travail qui est en train d'aboutir sur ce qu'on appelle, encore un nom barbare, désolé, le SDAL, le schéma directeur d'aménagement lumière. Et là, l'idée, c'est de pouvoir avoir des règles communes à l'échelle des 40 communes de Grand Poitiers, à la fois en matière d'horaire d'éclairage ou d'extinction, alors avec des spécificités pour chacune des communes, à la fois en termes de matériel, je le disais, la couleur des LED, etc. Et puis aussi en matière de préservation de ce qu'on appelle des trames vertes, noires et bleues pour l'eau, ça nous intéresse moins ici, mais surtout vertes et noires, de se dire qu'aujourd'hui on a identifié des points de conflit, il y a des couloirs où passe la biodiversité, où il n'y a pas forcément besoin du mât, mais il a un très très gros impact sur la biodiversité, et essayer de supprimer ces mâts-là et de les remplacer par d'autres passages.
Qu'est-ce qu'on appelle les trames vertes et noires ?
Alors les trames vertes, c'est des couloirs écologiques où passent, c'est souvent des couloirs de migration pour la petite faune, les oiseaux, enfin toute la biodiversité, ou alors des espaces où il y a une biodiversité à protéger. Et les trames noires, elles sont souvent corrélées aux trames vertes, et c'est des espaces où on considère qu'il est important de conserver une nuit noire pour protéger alors à la fois les animaux nocturnes, mais aussi ces couloirs de migration.
Héloïse Gaboret est notre invitée aujourd'hui. On parle éclairage public. On va revenir juste après sur comment ça a été accueilli par les habitants et puis les ajustements qu'il a fallu faire ces dernières années. Je vous propose de continuer en musique avec Ikadub et Hi-Fi. Ce sont un peu les héritiers des sound systems.
She good for you and good for me. Steady. This musical fever. Hey, hey. How you mean dreadlocks? Eh? This a musical fever. Make you catch this I want ya. Say so and you feel like a warmer. Scratch. Make you rock to the night. To the reggae my light is. I want me you them fi practice. Make you get to the fever. And I control your temper. The youth them want fi the robot up sound. And a woman must wear the crown. Them not no fool, them not no clown. Love your life so me wear fi no frown. Have the key fi the fever. Pay your fee fi the fever. Have the key fi the fever. Pull a musical shower, eh? It's a musical fever. Make you catch this a one, yeah. Say so when you feel a little warmer. Come make we run through the night, son. Eh? Through the reggae my night, this. For me you them free practice. Make you catch with the fever, eh? Make you catch with the fever. Shark attack where we dip on the block. No Cincinnati dreadlocks, they couldn't get a flop. And a woman rock to the top. Natty day them a the cream and the cup. Got the key for the fever. Pay your fee for the fever. Have the key for the fever. You know, this a musical fever. Go make it catch this a one, yeah. Hey, now make you feel a little warmer. Go make it gather to the night, yeah. Sound, sound, you feel like a mind like this. Me want me you them fi practice. Make you catch with the fever. Make you catch with the fever. Hey. Lord of God of mercy, had the nicest party. Catchy bite, got the robot up tight. Catchy bite, catchy bite, catchy bite. Catchy bite, got the roots on right. Catchy bite, make me all unite. Catchy bite, we no fuss, no fight.
Radio Curieuse et Citoyenne.
Nous sommes en compagnie d'Héloïse Gaboret, conseiller municipal à l'urbanisme au foncier à Poitiers et vice-président sobriété, transition énergétique, urbanisme à Grand Poitiers. On parle de la rénovation du réseau d'éclairage public et des extinctions nocturnes de cet éclairage. Quelles ont été les principales inquiétudes des habitants au départ concernant l'extinction ?
Je crois que très facilement, on peut parler de l'insécurité ou en tout cas du sentiment d'insécurité. On le disait dans la première partie, on s'est habitué à avoir des villes majoritairement éclairées et on a tendance à penser qu'une ville éclairée est une ville plus sûre. Il s'avère que les différentes études ou les collectivités qui ont pu le faire avant nous montrent qu'il n'y a pas forcément de corrélation, voire au contraire, ça peut faire baisser certains aspects délictuels. Pour autant, le sentiment d'insécurité, lui, il est là, il est bien là, il est totalement légitime. Et donc, le travail qu'il a été nécessaire de faire, ça a été de voir comment est-ce qu'on pouvait rassurer et puis quel dispositif on pouvait mettre en œuvre pour que là où le sentiment d'insécurité reste, on puisse mettre des éléments pour que les gens se sentent plus en sécurité.
Est-ce qu'à Poitiers, là, depuis 3 ans, il y a eu un impact justement sur l'insécurité réelle, pas le sentiment ?
A priori, non. Le retour des forces de l'ordre nous disent que ça n'a ni augmenté les délits, les crimes et délits, ni gêné les interventions.
Alors, quels sont les quartiers qui ont été un petit peu différenciés justement pour ces questions-là ?
Alors, ça n'a pas été tellement traité par quartier, ces différences-là, mais plutôt par typologie d'endroits et de zones. Par exemple, les zones commerciales, là où il y a des petits ou des grands centres commerciaux, c'est des zones qui restent allumées. De la même manière, les endroits où il y a de la vidéosurveillance, c'est des zones qui sont restées éclairées. Le travail qui a été fait aussi entre la période d'expérimentation et la période de généralisation, ça a été de garder et éclairer les endroits où passent les bus, notamment les noctambus, jusqu'à une demi-heure après le passage du dernier bus. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord pour la sécurité des gens qui descendent du bus, mais aussi parce que, très pragmatiquement, les abribus sont pris sur l'éclairage public, et donc si on éteint l'éclairage public, les abribus ne sont plus éclairés, les chauffeurs de bus ne les voient plus. Enfin, c'était très concrètement, c'était un des enjeux. On a aussi identifié les lieux de vie nocturne, les bars de nuit, les boîtes de nuit. Ces lieux-là, il y avait nécessité à ce qu'ils restent éclairés, à la fois pour le confort des usagers, mais aussi pour le travail de sécurité. Et à partir de là, pour la vie du plateau, on a identifié 4 axes de passage, notamment piétons, qui permettent d'entrer et de sortir du plateau. Ces axes-là, ils restent allumés toute la nuit. On a aussi distingué l'hiver et l'été, puisqu'on sait que l'été, on sort plus tard. L'éclairage public s'éteint à 2h en période estivale et à minuit en période hivernale. Ce sont plein d'ajustements qui ont été faits soit dès le départ à la demande des habitants, soit au fur et à mesure en fonction des demandes qui arrivaient et du développement de la ville aussi. Par exemple, en 2020, on n'avait pas le Republic Corner. Aujourd'hui, le Republic Corner a une activité beaucoup plus soutenue qu'à l'époque. Bon, on a été obligé de réfléchir à un axe éclairé là où ça n'était pas le cas au départ.
Donc il y avait des règles générales au départ et puis là, petit à petit, vous ajustez, même encore aujourd'hui, vous le disiez hors antenne, dès ce matin, vous aviez encore une demande.
C'est ça, on fait vraiment dans la dentelle et c'était la promesse qu'on avait faite dès le départ, c'était de dire on va pas tout d'un coup appuyer sur le bouton et mettre 100% de la ville dans le noir, on va vraiment faire dans la dentelle au fur et à mesure des demandes. À partir du moment où elles sont justifiées et justifiables, on peut réfléchir à des ajustements. Récemment, on nous a interrogé sur un endroit près du pont Saint-Cyprien où le passage piéton était faiblement éclairé. Pourtant, il y avait un mât, mais qui n'éclairait pas suffisamment. Bon, on a changé l'ampoule et ça éclaire mieux et la personne est satisfaite. On a été jusqu'à faire ça. Et puis, il y avait aussi des lieux nocturnes qui n'avaient pas forcément été identifiés au départ, où les gérants nous ont appelés ou nous ont fait des mails, des courriers en disant « Moi, je me sens pas en sécurité dans la gestion de mon établissement. » Et donc, on a trouvé des solutions ensemble.
Et alors sur la biodiversité, est-ce que vous avez déjà des chiffres, un impact ?
C'est le sujet compliqué. D'abord parce que, vous l'avez dit, on a fait l'expérimentation de l'éclairage public sur une opportunité. Ça n'a pas été programmé et à partir de là, on n'a pas pu faire un temps zéro avec 4 saisons d'analyse qui nous auraient permis vraiment de faire un diagnostic très précis scientifiquement. Pour autant, les échanges qu'on a pu avoir avec Vienne Nature, avec la LPO, nous disent que au moins en ressenti, on voit que ça va mieux. Par exemple, les petites chauves-souris, les pipistrelles, etc. Quand on se balade dans certains parcs, le parc des Crêtes, par exemple, au Couronnerie, on voit que il y a un peu plus de population. Pour autant, ça reste un ressenti. Globalement, on constate que les choses vont mieux. Est-ce que c'est parfaitement corrélé au sujet de l'éclairage public ? On a du mal à le démontrer. D'abord parce qu'il n'y a pas cet état zéro, et puis en plus parce qu'il faut plus de temps pour le montrer. Et on l'a dit, il y a eu pas mal d'ajustements. Et donc, on n'a pas une continuité suffisante pour pouvoir analyser clairement les choses.
Est-ce que cette expérience peut servir de modèle pour d'autres projets de transition énergétique à venir, justement, sur ces ajustements, sur le fait d'intégrer la parole des habitants ?
Je vais nuancer. Je suis sûr que c'est un modèle et c'est pas ce sujet de l'éclairage public qui sert de modèle. C'est le modèle qu'on essaye de s'appliquer à toutes les politiques publiques. Ça a été le cas pour le Pont Neuf, c'est le cas pour l'éclairage public. C'est forcément le cas pour un gros sujet comme le plan local d'urbanisme intercommunal. Tous les sujets qu'on porte, on sait que c'est des sujets qui peuvent brusquer, qui peuvent braquer, qui peuvent faire peur, qui peuvent susciter de la contestation. Si on les travaille pas avec les gens, ils seront jamais acceptables. Et donc, il faut vraiment, dès le départ, associer les habitantes et les habitants, à la fois pour améliorer l'acceptabilité des projets, mais aussi parce que l'expertise d'usage du quotidien, c'est elles et eux qui la possèdent, et donc il faut faire les choses avec elles et eux.
Vous pensez qu'aujourd'hui, la mesure est acceptée ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ?
On reçoit toujours quelques courriers de manière sporadique sur des inquiétudes ou des demandes d'amélioration. Donc, je pense qu'il n'y a plus de contestation globale du projet, mais il y a plutôt des demandes d'amélioration. J'ai tendance à dire que c'est un indice de l'acceptation du sujet. Et puis, j'étais il y a quelques semaines sur France Bleu pour parler du même sujet, sur une heure où on s'attendait à avoir beaucoup d'appels d'habitantes et d'habitants. Il n'y en a eu qu'un. Et est-ce que ça veut dire que les gens s'en désintéressent ou est-ce que ça veut dire qu'au contraire, il n'y a plus de sujet d'interpellation? Je le prends plutôt comme un signe positif.
Merci beaucoup Aloïse Garbouri, donc conseiller municipal à Poitiers et vice-président de Grand Poitiers, d'être venu nous faire le bilan de la rénovation du réseau d'éclairage public et sur l'extinction nocturne. Merci.
Merci à vous.
Demain dans Séquence Midi, on parlera des mobilisations touchant les salariés de Thalès suite aux réunions de négociations salariales. Mais tout de suite, c'est votre rendez-vous cinéma et on accueille Candice Mottet-Debert, médiatrice au cinéma Le Dietrich. Bonjour Candice.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu voulais nous parler du festival Télérama.
Et oui, comme chaque année, fin janvier, c'est le festival Télérama dans vos cinémas d'art et essai. Alors cette année, vous trouverez des films chez nos amis du TAP Cinéma et bien sûr au cinéma Le Dietrich. Chez nous, on a décidé de faire la part belle au cinéma français extrêmement prolifique cette année. Vous retrouverez Emilia Pérez de Jacques Audiard, Borgo, hein, qui est un thriller corse qui est un peu passé sous les radars malheureusement et qui est très bon, The Substance de Coralie Farja, évidemment La Bombe, Miséricorde d'Alain Guiraudy, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney à moitié torse nu toute la première moitié du film, donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr quand même le magnifique Les Graines du Figuier Sauvage de Mohamed Rassoulof, hein, qui est le grand thriller, le grand drame qui a gagné le prix spécial du jury à Cannes. Je vous lis son synopsis. Iman vient d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran quand un immense mouvement de protestation populaire commence à secouer le pays. Dépassé par les événements, il se confronte à l'absurdité d'un système et à ses injustices, mais décide de s'y conformer. À la maison, ses deux filles, étudiantes, soutiennent le mouvement avec virulence, tandis que sa femme, Najmé, tente de ménager les deux camps. La paranoïa envahit Iman lorsque son arme de service disparaît mystérieusement. Alors on est sur un drame magnifique, hein, carrément un prix a été créé pour soutenir ce film au dernier festival de Cannes. C'est un manifeste magistral pour la liberté en Iran qui passe du huis clos familial au thriller vertigineux. D'ailleurs, je précise que toute la semaine du festival Télérama, nous ouvrons le cinéma le matin pour en plus vous proposer les films en matinée. Les Graines du Figuier Sauvage, par exemple, vous pourrez notamment le découvrir demain matin. Et puis, j'ai aussi envie de vous parler d'une avant-première, car à chaque fois, on fait une avant-première exceptionnelle. Et je vais vous parler de La Pampa, qui est un film français qui fera les beaux jours de notre programme de février, vu que c'est notre coup de cœur de février. C'est le premier film d'Antoine Chevrolier, un jeune réalisateur. On y retrouve un casting jeune avec Saïd El Alami et Amaury Fouché, mais également des grands acteurs comme Damien Bonnard et Artus, que l'on retrouve dans un rôle à contre-emploi absolument terrifiant et glaçant. C'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes de l'année dernière en semaine de la critique. Et voici le synopsis. Willy et Jojo sont amis d'enfance et ne se quittent jamais. Pour tuer l'ennui, ils s'entraînent à la Pampa, qui est un terrain de motocross. Un soir, Willy découvre le secret de Jojo. Eh ben oui, je vous en dirai pas plus non plus. Le résumé laisse planer un peu le doute et tout l'intérêt de ce film, c'est de se faire surprendre. Le film ne va pas du tout dans la direction que l'on pourrait croire. C'est un magnifique film sur l'amitié, c'est un magnifique film sur la jeunesse dans des milieux masculins, masculinistes, qui est très compliqué. Et c'est un film extrêmement réaliste aussi sur l'impact de la famille, sur la vie des jeunes. C'est un récit initiatique profondément émouvant, servi par des jeunes comédiens qui crèvent l'écran, ainsi que le toujours impeccable Damien Bonnard et, comme je vous le disais, Artus. Ça s'appelle La Pampa. On fera l'avant-première lundi 27 janvier à 21h et ensuite en février il y aura de nombreuses séances dont une qui sera accompagnée d'une association qui traite des problématiques du film. Voilà, le festival Télérama c'est au Dietrich et au TAP Cinéma dès aujourd'hui et jusqu'à mardi prochain.
Merci beaucoup Candice, on te retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres conseils cinéma et pour vos autres idées sorties, voici votre agenda. On commence par une collecte de sang, c'est à Saint-Benoît dans le hall de la Une, entre 15h et 19h. Inscrivez-vous vite. Poitiers Jeunes vous propose de continuer son travail sur le thème du consentement avec Cyber en scène, projet de la compagnie Sans Titre. Une conférence interactive et théâtralisée avec des quiz, du slam, des nuages de mots, des exercices pratiques sur le thème du consentement, du couple, des effets de groupe sous le prisme du numérique. Donc, Poitiers Jeunes organise une séance à destination des jeunes à partir de 13 ans, accompagnée par les maisons de quartier. Et ça se déroulera donc au centre socioculturel de la Blaiserie à 15h. L'Assemblée Générale de l'association ADEPA 86 a lieu ce soir à la maison de quartier de la Gibaugerie. Il y a une partie pour les adhérents, mais à 19h30, il y a une partie ouverte au public avec une intervention de Gérard Lancereau, architecte honoraire Conseil de l'État, qui abordera les enjeux du nouveau PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, avec un point d'étape sur son élaboration et la contribution de l'association sur la charte pour un urbanisme résilient. Donc vous pouvez y accéder à partir de 19h30, donc à cet AG, à la maison de quartier de la Gibaugerie. Garderie, journée de la musique de chambre. Et bien, il y a plein de rendez-vous aujourd'hui. Ça commence à 15h au CHU. Donc les élèves et les étudiants voient la rencontre du public. Cette 18e édition propose 12 concerts gratuits et elle marque l'aboutissement d'un semestre de travail autour d'un répertoire qui s'étend du 15e siècle à aujourd'hui, avec des échanges, du partage avec le public au programme. Donc je disais 15h au CHU, 17h à la médiathèque François Mitterrand, 18h30 c'est au Toit du Monde et 20h à l'auditorium Saint-Germain. Et puis ce soir, il y a la jam du wagon bar, c'est à la locomotive boulevard du Grand Serre à 20h. Sur Pulsar, ne ratez pas à 14h une émission, c'est-à-dire le résultat d'un atelier radio qui a été fait par l'IAE. Et cet après-midi, c'est donc sur la musique que vous découvrez sur TikTok ou pas. D'ailleurs, est-ce que c'est positif ou pas pour les artistes. Et puis à 21h, c'est l'indépendance, et 23h, Sono Kino, qui sera bien sûr consacré à David Lynch. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. Oui, petit clin d'œil au Dietrich, d'ailleurs, vous aviez pensé à David Lynch.
Oui, on espère qu'on ne l'a pas tué, mais en tout cas, vous verrez tous ces films cette année au Dietrich de David Lynch, en hommage du coup.
Donc une année spéciale David Lynch au Dietrich, c'était effectivement bien pensé. Et puis on termine avec du dub, je vous le disais avec des artistes alsaciens de Hartung Sound System. Voici Red Wine et Monkaz et ce titre All the Lady. Bon après-midi, à demain. All the ladies with the hair.
quoi tu penses?
Lisa, parle-moi. Dis-moi que tu entends mes paroles.
Je trouve que c'est toi.
Ah ouais.